Il est minuit en temps universel, 2h ici à Paris. Merci d'écouter RFI.
Mathis Limano.
Et à la une, où sont passées les sociétés militaires privées en RDC, Congo Protection, Agemira, autant de groupes qui se sont retirés du terrain, alors que la FCM-23 contrôle toujours des pans entiers dans l'Est congolais. Une première session de négociations sans résultat, les discussions indirectes entre Hamas et Israël n'ont rien donné, d'après des sources palestiniennes. Elles reprochent aux négociateurs israéliens de ne pas avoir un mandat suffisant pour conclure un accord de cessez-le-feu à Gaza. Le compte à rebours est lancé pour les partenaires commerciaux des États-Unis avant l'entrée en vigueur des droits de douane prévus le 1er août. Et puis alors que les proches et soutiens de Cécile Kohler et Jacques Paris s'étaient rassemblés dans la capitale française pour exiger leur libération, un autre Français parti en vacances en Iran n'a plus donné de nouvelles depuis plusieurs semaines. On débute cette édition avec la République démocratique du Congo. Alors que l'AFC-M23 garde le contrôle de plusieurs territoires du nord et du sud Kivu, appuyés par l'armée rwandaise, plusieurs sociétés militaires privées alliées de Kinshasa se sont repliées, voire ont quitté le terrain. Des mouvements qui interrogent sur la stratégie congolaise qui misait sur leur déploiement. Patient Ligodi, quelles sont ces sociétés militaires au juste ?
D'abord, la société Congo Protection. Face à la pression militaire de la FCM-23 et de l'armée rwandaise, ses agents ont été dépassés. 291 membres du personnel ont trouvé refuge dans les enceintes de la MONUSCO. Ils ont ensuite été évacués vers la Roumanie via Kigali. Deuxième société, Agemira. Environ 120 de ces hommes sont toujours présents à Kinshasa et à Kisangani. Ils opèrent principalement sur des drones CH-4 et des aéronefs militaires. Mais selon les experts de l'ONU, Agemira prévoit de quitter la RDC en septembre 2025. Et puis, il y a Frontier Services Group, dirigé par l'Américain Eric Prince. Selon les Nations Unies, un contrat de 5 ans a été signé avec cette société en décembre 2024. Et ce n'est pas la première fois qu'Eric Prince est associé à la RDC. En juillet 2023, Kinshasa avait déjà entamé des discussions avec lui. À l'époque, il aurait même tenté, selon des sources onusiennes, de précipiter le départ de la MONUSCO pour faciliter l'arrivée de ses hommes. Aujourd'hui, une question reste en suspens. La société d'Eric Prince opère-t-elle en lien avec des intérêts américains en négociation avec Kinshasa sous l'égide de la Maison-Blanche? Un négociateur joint par RFI répond « Il n'y aura pas de troupes américaines en RDC, mais le recours à des sociétés de sécurité privées, ça, ce n'est pas exclu. »
Les explications de Patient Ligodi. Benjamin Netanyahu est en route pour Washington. Il sera reçu aujourd'hui par Donald Trump, pour qui il y a de bonnes chances qu'un accord de cessez-le-feu à Gaza soit obtenu dans la semaine. Dans le même temps, le premier round de négociations à Doha n'a rien donné, indiquent des sources palestiniennes critiquant le mandat insuffisant des négociateurs israéliens pour parvenir à un accord. Des négociations qui n'arrêtent pas pour autant la guerre. Encore 26 morts hier à Gaza dans les bombardements israéliens. L'État hébreu qui a aussi frappé les Houthis du Yémen, le port d'Al-Odeida et d'autres points stratégiques des rebelles ont été visés d'après la chaîne de télévision des Houthis. Sans accord conclu dans les prochains jours, les États-Unis appliqueront des droits de douane à leurs partenaires commerciaux dès le 1er août. C'est ce qu'a affirmé le secrétaire au Trésor Scott Bessent. Des surtaxes pouvant aller jusqu'à 50%, ultime coup de pression, mais à l'approche de la date butoir, Scott Bessent est persuadé que les deals vont se multiplier. Écoutez-le, il était sur CNN.
Nous allons être très occupés pendant les prochaines 72 heures. Le président Trump va envoyer des courriers à certains de nos partenaires commerciaux disant que s'ils ne font pas avancer les choses, alors, le 1er août, ils retourneront tel un boomerang au niveau des droits de douane du 2 avril. Par conséquent, je pense que vous allez voir beaucoup d'accords très rapidement. Probablement une centaine de lettres vont être envoyées à des petits pays avec lesquels nous ne commerçons pas beaucoup. La plupart de ces pays sont déjà au taux plancher de 10%.
Et à l'heure actuelle, seuls le Royaume-Uni et le Vietnam ont scellé un accord commercial avec Washington. Les BRICS, eux, réunis au Brésil depuis hier, ont fait part de leurs sérieuses préoccupations face à la guerre commerciale des États-Unis sans les nommer. Un sommet marqué par l'absence du président chinois Xi Jinping et celle de Vladimir Poutine, le dirigeant russe, toujours visé par un mandat d'arrêt international et toutefois intervenu par visioconférence. Au Texas, les secours sont toujours à la recherche de 10 jeunes filles et de leurs moniteurs disparus dans les inondations qui ont causé la mort de près de 80 personnes. Après une période de recueillement face à la tragédie, des voix s'élèvent à présent pour remettre en cause les choix politiques de Donald Trump, lui qui se rendra probablement sur place vendredi. Pour les scientifiques, les coupes budgétaires drastiques et les licenciements au sein de l'Agence météorologique nationale et de la NOAA, l'Administration océanique et atmosphérique nationale, sont une grave erreur. Dans une interview à l'agence Reuters, l'ex-administrateur de la NOAA met en garde contre les conséquences de ses décisions, Igor Strauss.
Pour le docteur Rick Spinrad, ancien membre de la NOAA, impossible d'affirmer que des vies auraient pu être sauvées au Texas. En revanche, il dresse un amer constat.
Si votre équipe de football préférée joue à 8 au lieu de 11 joueurs, elle va perdre car 8 joueurs ne peuvent pas faire le travail de toute l'équipe. Et c'est ce qui se passe à la NOAA. Ils ont des scientifiques exceptionnels, des techniciens formidables, mais s'ils ne sont pas assez pour faire le travail, alors quelque chose ne va pas.
Et avec les coupes budgétaires drastiques effectuée par le DOGE dans tous les services de météorologie du pays, le docteur Spinrad est particulièrement inquiet pour l'avenir.
Sans recherche, sans personnel pour faire le travail, nous pouvons supposer que les prévisions météo, et pas seulement des ouragans, mais aussi des tornades, des inondations, des sécheresses, des tsunamis vont se dégrader. Et ça signifie que la capacité des gens à se préparer sera compromise, que des vies supplémentaires seront perdues et qu'il y aura plus de dégâts.
Alors que le réchauffement climatique va provoquer une forte hausse des événements climatiques extrêmes, le docteur Spinrad exhorte le Congrès d'augmenter les crédits pour la science.
Et interrogé sur la possibilité de réembaucher le personnel licencié des services de météorologie, Donald Trump a évacué l'idée. Ridicule, voilà comment le président américain qualifie la décision d'Elon Musk de créer son propre parti politique, le Parti de l'Amérique. Le patron de X et Tesla, très critique dernièrement contre la méga loi budgétaire de son ancien allié, entend proposer une alternative aux deux partis historiques, démocrates et républicains, qu'il accuse de gaspillage et de corruption. 3h07 à Ankara, après avoir rendu visite en prison au chef historique du Parti des travailleurs du Kurdistan, Abdullah Öcalan, une délégation du DEM, le parti pro-kurde de Turquie, doit rencontrer aujourd'hui Recep Tayyip Erdogan au palais présidentiel, une rencontre organisée en amont d'une cérémonie de désarmement du PKK organisée au Kurdistan irakien, cérémonie qui s'inscrit dans le processus de paix déjà engagé, processus que Ankara cherche à entraver, a toutefois critiqué le PKK. Paris juge inquiétante la disparition d'un jeune Français en Iran, parti faire de la randonnée en vélo. Lennart Monterlos, 18 ans, n'a plus donné de nouvelles à ses proches depuis le 16 juin, c'était il y a 3 semaines. 2 Français sont actuellement détenus en Iran depuis plus de 3 ans et encourent la peine de mort. Cécile Kohler, professeur de lettres de 40 ans, et son compagnon Jacques Paris, 72 ans, arrêtés le 7 mai 2022 au dernier jour de leur voyage. Les autorités iraniennes les accusent désormais d'espionnage pour le Mossad, les services secrets israéliens. Leurs proches et leur comité de soutien ont organisé hier un rassemblement place du Panthéon à Paris. Anne-Laure, la fille de Jacques Paris, s'était présente.
Ils sont éprouvés physiquement, psychologiquement par ces conditions. Ils ont subi des bombardements le 23 juin dernier. Ils s'estiment chanceux d'y avoir échappé, mais ils sont extrêmement choqués, terrorisés par le fait que les bombardements puissent reprendre. On sait qu'ils ne dorment plus, que les conditions de détention dans lesquelles ils sont sont encore extrêmement dégradées. Ils ne savent pas eux-mêmes où ils sont détenus. Mon père dort toujours à même le sol, avec des conditions d'hygiène très dégradées. On sait que mon père a réexprimé sa profonde détresse sur l'absence de visibilité sur la durée de sa détention. Ils ne trouvent plus de ressort pour tenir. Et ils sont entretenus dans cette terreur psychologique de ces chefs d'inculpation qui sont pour nous le couronnement d'une longue liste de mensonges de la part des autorités iraniennes. Ce qu'on attend, c'est que les autorités françaises se saisissent de tous les moyens diplomatiques pour les faire sortir de là immédiatement, puisque face à l'urgence vitale, on ne peut plus attendre des semaines. Il faut que ça se passe dans les jours qui viennent.
Anne-Laure Paris, la fille de Jacques Paris, donc toujours détenue avec sa compagne Cécile Kohler en Iran. Jennifer Geerling Simons prend la tête du Suriname. À 71 ans, elle devient la première femme à diriger le petit pays d'Amérique du Sud. Une élection qui s'est déroulée par acclamation au Parlement du Suriname. À l'Euro féminin de football, les Norvégiennes, bousculées tout au long du match, ont finalement battu la Finlande 2-1 et se qualifient pour les quarts de finale. La Suisse, pays hôte, se relance dans la compétition grâce à son succès 2-0 contre contre l'Islande. Et puis en tennis, on connaît les premiers qualifiés pour les quarts de finale à Wimbledon. Chez les femmes, ça passe, notamment pour la numéro 1 Arina Sabalenka. Même chose chez les hommes pour le numéro 2 mondial, l'Espagnol Carlos Alcaraz.